Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, n'ayez pas peur, mais on va parler de poésie. On en a un peu perdu l'habitude en France et pourtant, on en a eu des poètes de génie. Le roman a pris un peu toute la place, c'est vrai, mais la poésie revient par des chemins détournés. Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos et écrivain, publie avec Daria Nelson un recueil dans une nouvelle collection qui s'appelle Iconopop. On y revient tout de suite. Juste avant, je vous annonce le reste du programme. Nous visiterons, comme chaque semaine, une bibliothèque, celle de Philippe Labro aujourd'hui. Nous irons faire un tour dans une librairie, ouverte en Click and Collect, bien sûr, à Saint-Mandé. Et comme toujours, c'est ce grand enfant de Victor Dolan qui fermera la boutique avec sa chronique littérature jeunesse. Mais d'abord, donc, les invités. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Les éditions de l'Iconoclaste, vous connaissez, ce sont des livres et des auteurs modernes, sur le fond et la forme d'ailleurs. C'est Cécile Coulon, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné, avec des romans aux couvertures incroyables. Elles ne passent pas inaperçues dans les librairies. C'est pas mal d'ailleurs parce qu'en France, contrairement à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, on est un peu timoré côté couverture. On est sobre, on est chic, certes, mais parfois quand même ça manque un peu de couleur et d'éclat. Pas à l'Iconoclaste qui lance donc une nouvelle collection de poésie contemporaine. Trois recueil pour l'instant, Brûlé, brûlé, brûlé de Lisette Lombé, Des frelons dans le cœur de Suzanne Robalet qui explore les confins du désir, et puis Le dérèglement joyeux de La métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Daria Nelson qui sont tous les deux en studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Restez là, je passe juste un petit coup de fil d'abord à Sophie de Civry, la patronne de l'Iconoclaste, parce que je voudrais comprendre. Bonjour Sophie de Civry.
Bonjour Nicolas.
Comment allez-vous?
Mais très bien, surtout quand je vous entends si gentiment parler de l'Iconoclaste, c'est top.
Avec plaisir, merci à vous. Alors, je disais tout à l'heure, en France, on a un peu laissé tomber l'exercice. Le prix Nobel de littérature cette année a été décerné à Louise Gluck, poétesse américaine. Et alors ici, inconnue au bataillon, et pour cause, elle n'a quasiment pas été traduite en français. C'est quand même dingue. Vous êtes sûre, Sophie de Civry, que c'est bien raisonnable de publier des textes poétiques?
En fait, Iconopop, ça s'inspire de toutes les formes d'écriture contemporaine qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qu'on trouve dans le slam, dans le rap, qu'on trouve aussi dans nos envies d'audio avec des textes sonores, des textes au ton d'aujourd'hui qui est un ton brut, sans tabou. C'est tout ça, Iconopop. Donc Iconopop, c'est évidemment, c'est des formes libres, souvent des phrases un peu en forme de vers. Donc on a envie d'apparenter ça à de la poésie. Mais la poésie, ça peut aussi être un peu dangereux pour Iconopop parce que c'est une forme de case quand même, qui peut être clivante, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie ou pas de lire de la poésie et avoir un a priori, alors qu'Iconopop a tendance vraiment à être un espace de liberté, un espace de pour dire une littérature d'aujourd'hui, une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle manière qu'on a envie de lire aujourd'hui, d'avoir des émotions avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller lire des romans de 300 pages, mais qui trouvent dans Iconopop ce qu'on aime dans la littérature, c'est-à-dire de l'émotion, des sentiments, du récit.
Et comment on fait sur la forme pour désacraliser tout ça, pour décomplexer? C'est aussi, ça compte aussi la couverture, le ton,
oui,
la mise en page?
Voilà, on a voulu faire quelque chose de très gay, de très pop, de dire aux auteurs, vous pouvez ou pas apporter des images. On travaille énormément sur le plan graphique, c'est-à-dire qu'on décide de faire juste un mot sur la page ou parfois de faire trois phrases, mais toujours être dans l'idée que Iconopop va se dire ou se lire, va s'écouter, va aussi, j'espère, très vite se dire sur scène. C'est-à-dire, c'est vraiment être multidimensionnel dans notre envie aujourd'hui d'appréhender la littérature. Je pense que tout ça est en train de beaucoup changer. Et Iconopop va dans ce sens-là, de proposer quelque chose de très contemporain.
Ça change aussi grâce aux éditeurs. Merci beaucoup, Sophie de Civry.
Merci, Nicolas.
Et merci pour tous ces beaux livres. À bientôt.
À très vite.
Daria Nelson, Mathias Malzieu, vous publiez donc Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. C'est quoi au fait la poésie pour vous? Ce ne sont pas les rimes et les vers, ce sont des poèmes en prose là en l'occurrence. C'est le format, c'est l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la poésie?
Plus généralement pour moi c'est une façon d'être au monde qui est un pas de côté. L'an dernier j'ai eu la chance de réaliser un film, Une sirène à Paris. quand tu es sur un plateau, tu mets la caméra à d'autres endroits à chaque fois, et c'est comme ça que tu racontes ton histoire. Et en regardant le monde ou une situation d'une autre manière que la poésie peut arriver, dans le cercle des poètes disparus, justement, le professeur Keating dit à ses élèves à un moment de monter sur le bureau pour voir le monde d'un autre angle. Et en fait, après, la poésie, c'est ça. Alors après, techniquement, dans les livres, évidemment, il y a la prose, finalement, quelque part, on s'en fout que ça soit des quatrains, que ça soit de la prose ou qu'il y ait de la poésie dans des romans. Là, le fait est que dans ce livre-là, j'ai très peur hein, tout de suite. Hein, quand on me dit poésie aussi, je m'inquiète. Et surtout par les temps qui courent, les autoproclamés, on a tendance à s'en méfier. Et même pour la poésie, donc j'ai jamais voulu me dire « Oula, ça y est, je vais écrire un recueil de poèmes ». Mais le fait est qu'en rencontrant Daria, je me suis amusé à lui écrire des poèmes pour qu'elle les retrouve souvent le matin quand j'écrivais la nuit sur un autre livre. Puis avec la rencontre avec Cécile Coulon, justement, qui dirige cette collection. Mmh.
Qui est romancière aussi.
Qui est une romancière et une poétesse, pour le coup, extraordinaire. Elle m'a dit, mais t'écris pas des poèmes, toi ? Parce que moi, je l'avais fait venir aux Trois Baudets pour des soirées poésie avec Reading Wild, tout ça. Et elle me dit, je dis, si, en ce moment, j'en écris. Donc, j'ai envoyé un peu des copies d'écran, de textos que j'avais envoyé à Daria, des photos de petits bouts de papier, enfin vraiment un truc qui n'était pas fait pour faire un livre, ce qui fait que j'étais très décomplexé, c'était que pour faire des surprises à Daria, et ça s'est transformé en livre par le désir de Cécile qui a trouvé qu'il y avait quelque chose à faire avec ses poèmes.
Alors justement, Daria, vous publiez ensemble ce recueil, qui a fait quoi ?
C'est, devinez. En fait, c'est Mathias qui a écrit les poèmes et moi qui répondais par les collages. Parce que Mathias,
il y a des collages photographiques, voilà, c'est illustré en fait.
Oui, en fait, moi je suis photographe. Et Mathias, au tout début, il me dit écoute, ça pourrait être bien si on peut faire quelque chose ensemble. Est-ce que ça te dit de faire les photos ? Moi, je fais des autoportraits et je lui avais dit écoute, déjà, ça parle de moi. Si encore en image, on va voir moi, ça va être un peu trop. Et je lui ai dit écoute, et si on fait comme Mayakovsky et Rodchenko, si on fait des collages et des poèmes ensemble ? Et c'est ce qu'on a fait.
Et il y a de la poésie aussi dans les photos, bien sûr.
Tout à fait.
Et comment on la trouve, cette poésie dans les photos ? C'est pareil, il suffit de décaler l'objectif, comme disait Mathias ?
C'est au feeling. Pour moi,
oui,
c'est le feeling.
Puis déjà, le fait que les collages, en soi, c'est un pas de côté. Est-ce que tu mets des choses, c'est l'expression pure du surréalisme ou de l'humour même. Parce
la
que tu mets, des choses,
quoi.
Tu mets des choses qui ne vont pas ensemble, ouais. Ensemble. Donc déjà, tu t'amuses. Donc déjà, c'est ludique. Et puis, c'était très important pour moi, effectivement, vu que les poèmes, je les faisais pour elle, qu'elle soit pas seulement la muse, mais la plus que muse. Et que, comme j'avais une artiste à la maison, je trouvais ça dommage qu'elle puisse pas répondre. Et là, c'est vrai que Sophie de Sivry et Cécile et Alexandre chez l'Iconopop ont très bien réagi. Ils m'ont dit non, au contraire, on veut démuséifier la poésie. Mmh. Donc, si vous voulez mettre des illustrations, des choses comme ça, c'est possible.
Ah, c'est vraiment chouette. Et alors, on peut le dire, vous êtes ensemble, donc on l'a compris, à la ville comme à l'écrit.
Ouais. Et presque à la scène.
C'est d'ailleurs un recueil autobiographique, finalement, ça raconte votre histoire. Il y en a un qui est assez explicite qui s'appelle Je t'aime d'Aria Nelson,
ouais.
C'est le titre. Et, ouais. Et un autre qui donne son nom au recueil d'ailleurs, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Vous nous le lisez ?
Avec plaisir.
On va comprendre.
Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse a commencé au moment exact où je t'ai vu apparaître, telle une panthère des neiges, louvoyant entre les tables du café des deux magots. En moins d'une minute, j'eus l'impression de te connaître depuis longtemps avant ma naissance. En moins d'une heure, la pâtisserie fine de tes baisers désintégrait définitivement le concept de temps. En moins de deux jours, tu habitais chez moi. Tel un fantôme inversé, celui venu du futur pour me réconcilier avec le présent. Un jour d'amour avec toi compte comme 10 avec qui que ce soit. En 60 jours, nous sommes donc à 600 jours. Presque 2 ans déjà. Et la fusée exponentielle continue de se dérégler un peu plus chaque nuit.
Et c'est en fait tous ces poèmes qui racontent cette histoire assez neuve finalement. Hein. Ça date de...
Ah non.
Un an, voilà, c'est ça. Alors, on met un marque-page et on revient tout de suite pour d'autres poèmes.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Mathias Malzieux et Daria Nelson, qui publient un recueil de poésie, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. C'est pratique, c'est fin, petit format, on met ça dans sa poche et on le sort de temps en temps pour en lire 3 ou 4. C'est comme un paquet de bonbons finalement. D'ailleurs, les pages ne sont pas numérotées, c'est parce qu'on est censé piocher dedans au hasard, Daria Nelson ?
Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est comme le découvert. Moi, j'aime bien en fait, de temps en temps, de prendre le livre, de me poser la question dans ma tête et de me dire « Tiens, je vais ouvrir la page, sans savoir laquelle, et je vais lire ce qui est écrit dessus. Et c'est comme ça que ça se passe aussi avec le recueil. On ouvre la page et on a la réponse sur toutes nos questions.
Alors, j'en prends un autre au hasard. Tiens, un très court. « Tu transformes mon cœur en derviche tourneur. » Fin du poème. C'est ça aussi la force d'un poème, Mathias ouais, Malzieu. Paf, comme ça, un coup,
j'aime,
une figurance.
J'aime bien les aphorismes. Alors, ou les haïkus. J'avais le troisième album de Dionysos s'appelait Haïku. J'avais découvert ça, pas du tout au Japon, mais en fait à San Francisco. Quand je...
Le haïku, c'est un type de poème.
Ouais, effectivement, c'est, des poèmes, c'est des poèmes japonais. En fait, c'est trois phrases et 17 syllabes. Et donc, se débrouiller avec très peu, comme en fait, finalement, dans la chanson pop ou des choses comme ça. J'adore les romans, j'adore les grandes aventures, les sagas, mais aussi des fois la bobine super 8 de 3 minutes, le truc on arrive à la miniature, ça, voilà, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le côté paquet de bonbons, quoi. On traîne dans sa poche et on peut le picorer.
On n'a pas besoin d'être long pour tout dire, de toute façon.
Non, c'est important de grignoter aussi, ça fait grossir un peu, mais c'est quand même très amusant.
Ils sont très beaux ces poèmes. Est-ce qu'on est meilleur poète quand on est amoureux ou désespéré, ou simplement ce ne seront pas les mêmes poèmes?
Je ne sais pas si on est meilleur, mais en tout cas, on est plus intense. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne voudrais pas du tout tomber dans le truc du poète maudit, et que ce soit pour la poésie ou l'écriture ou l'inspiration d'une manière générale. Moi, j'ai été inspiré par des choses difficiles, quand j'ai perdu ma mère ou quand j'ai dû traverser une longue période d'hospitalisation. Mais je n'ai pas eu ce besoin de me dire « Ah, vivement que la pluie recommence et que je me sente mal à nouveau pour être inspiré. » J'ai pris le souffle de la joie. Et retomber amoureux dans un moment où je pensais vraiment que j'allais plus tomber amoureux du tout, c'est-à-dire l'année dernière, ça a été évidemment très très inspirant. Donc je mets la joie et la mélancolie à égalité de mérite pour provoquer l'inspiration.
Il y a poème pour ton cul aussi, ça c'est le titre, avec des textos aussi, oui. Mis en page.
Oui.
Mais du coup c'est très intime. Darian Elson, faut y aller quand on écrit de la poésie ou quand on fait de la photo d'ailleurs, il faut être indiscret, ça vous dérange pas ça ?
Pas du tout, moi je fais des autoportraits érotiques, je suis très bien habituée de poser nue devant la caméra et pour moi le recueil c'est pareil ce qu'on a fait mais tous les deux en fait.
C'est une forme de mise à nu aussi à l'écrit, Mathias. Ouais,
tout à fait.
Mais avec une dimension ludique, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, par exemple se promener nu dans la rue, c'est pas un acte artistique, c'est juste...
Ça pourrait.
Ça pourrait, mais c'est une forme d'attentat à la pudeur. Alors qu'à partir du moment où tu cadres sur une photo ou que tu décides d'en faire quelque chose avec un poème, tu utilises la nudité pour en faire quelque chose de créatif. Et puis c'est le fait de ne pas trop se prendre au sérieux aussi qui met le filtre au ouais. Bon dosage pour moi.
J'ai un texto là. Dire qu'il y a une semaine, je ne connaissais pas ça. J'ai l'impression de voir ma vie d'avant comme une vue d'avion. Tout semble minuscule et lointain. Réponse de Daria, on imagine. Ne réfléchis pas trop, on a une belle histoire à vivre. C'est vrai que, Mathias, vous êtes un peu pénible. Vous passez beaucoup de temps à vous étonner. Vous écrivez même « Je suis étonné que tu aimes m'aimer ». Mais vous ne pouvez pas vivre votre histoire, tout simplement.
Non, parce que j'étais traumatisé, en fait. Je venais de passer 8 ans avec quelqu'un. Et du coup, la fin de cette histoire m'a reprojeté au début de l'histoire que j'ai écrite avant, qui s'appelle « Une sirène à Paris », où le personnage principal, après une rupture difficile, pense qu'il ne tombera plus jamais amoureux, à la fois par égo égratigné et en même temps par besoin de souffler. Et il va trouver sur les bords de Seine une sirène qui tue tous les hommes avec sa voix, donc ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, ce qui est ultra désirable. Et le truc un peu fou et magique, c'est que quand j'ai rencontré Daria, donc au De Mago, on était à quelques hectomètres seulement de l'endroit dans ma tête, puis dans le film, où on trouve la sirène. Et on allait se promener le deuxième jour de notre rencontre et on s'est retrouvé à l'endroit où j'ai trouvé la sirène. Et je me suis dit, bon, sans mystifier les choses, il y avait un espèce de jeu ludique et une boucle intertemporelle amusante qui s'est passée entre l'histoire que j'ai racontée, la vraie vie et cette nouvelle vie. Donc oui, j'étais étonné qu'elle puisse aimer m'aimer. C'était sincère, c'était pas de la posture.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça ? Je suis étonné que tu aimes m'aimer. C'est assez beau, mais en même temps, on se dit,
moi je le prends. Je le prends, je trouve c'est joyeux et après je lui propose une tasse de thé.
Meilleure réponse. Alors vous vous êtes rencontrés au De Mago, mais pour une soirée spéciale de Boris Vian en fait, quoi. Consacrée à Boris Vian, parce que le De Mago organise comme ça des soirées où on danse à la Boris Vian. Et alors il y a les textos, il y a des choses très intimes dans les poèmes, mais il y a aussi carrément vos rêves. Ouais. Pour vous Daria, c'est Gainsbourg qui vous a visité en songe, et vous Mathias, c'est Boris Vian, et vous racontez ça dans le livre aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit l'un et l'autre? Daria par exemple, Gainsbourg, comment ça s'est passé?
Pour moi, Gainsbourg, c'est vraiment, c'est pourquoi je suis en France. C'est pourquoi je suis venue en France. Moi, j'ai appris français en essayant de traduire à ma manière les textes de Gainsbourg, parce que je comprenais rien. Et Gainsbourg, je l'ai connu par le film de Johannes Fahr, où Mathias, il a repris une chanson. Cette chanson, elle m'a donné envie de savoir en plus. Et du coup, c'est vraiment...
C'est une boucle.
Et pour moi, Gainsbourg, c'est vraiment... Je suis venue à Paris et je voulais être un peu comme lui. Je voulais créer ici, rester ici, de m'inspirer de toute cette ambiance joyeuse qui m'a donné et qui me donne toujours Paris.
Et vous arriviez d'où ?
Moi, je suis ukrainienne, d'origine russe.
Et Mathias, alors Boris Vian, lui, il est plus ferme avec vous. Hein. Il vous dit... Arrête de pas y croire, sinon ça va finir par ne plus exister.
Exactement, exactement. En fait, c'est j'ai écrit ça une fois que j'ai tous les poèmes, en gros, à peu près, que j'ai décidé d'en faire un livre. Et on avait quand même ces parrains amusants, donc que j'appelais fantômes parce qu'ils sont plus là. Boris Vian, parce que donc moi j'étais le parrain du centenaire. On avait fait une interview ensemble d'ailleurs début mars.
On avait fait une soirée spéciale, une émission spéciale pour Boris
d'ailleurs.
Vian pour l'anniversaire de sa mort.
Ouais, et d'ailleurs Daria était là. Et donc j'étais là aux deux magots pour ça. Et puis Daria, en tant qu'égérie des deux magots, était là et on s'est rencontrés et on s'est mis à parler de Gainsbourg. On s'est mis à parler évidemment de Boris Vian. En plus, Boris Vian qui a été un des premiers à soutenir Gainsbourg au début de sa carrière. Et d'ailleurs, on a parlé de ça aussi parce que c'est aussi mis en scène dans le film de Johannes Fahr. Johannes Fahr est un de mes amis. La musique du film a été faite par Olivier Davio, qui fait les arrangements avec Dionysos depuis plus de 10 ans. Et là, on va partir, quand le confinement sera terminé, sur scène avec Olivier et Daria. Et bien sûr qu'on va chanter des chansons de Gainsbourg, de Boris Vian, en plus des poèmes. Donc il y a eu toujours des espèces de boucles comme ça, un peu magiques. Et peut-être que c'est...
Une sorte de mécanique, de métrique.
C'est ça, en fait, tout s'est déréglé en fait au sens joyeux du terme, parce que bon bah voilà, moi je me couche tard, Daria avait tendance à se coucher plus tôt, je pensais que je serais plus du tout amoureux, elle était dans un autre truc, les pays, les langues, tout en fait s'est bousculé et c'est là que, en fait que ça crée de la vie. C'est un ostéo qui m'avait dit ça, il m'a dit mais moi ce que je travaille en fait, je travaille à créer de l'espace. En fait vos muscles quand vous avez mal, c'est par exemple deux os qui sont les uns contre les autres et je vais créer un petit peu d'air. Et en fait, quand on se dérègle, on est obligé de s'adapter tout le temps. Mmh. Et en fait, ça crée de la vie. C'est l'inverse de quelque chose qui pourrit et qui stagne.
Alors, vous parliez de parrain. Dans un instant, pas de roman culte cette semaine, mais de la poésie culte avec Mathias Malzieu et Daria Nelson. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, version poésie, cette semaine avec Mathias Malzieu et Daria Nelson qui publient un recueil de poésie dans la nouvelle collection de l'iconoclaste, Iconopop. Magnifique, pas de lecture de romans cultes cette semaine, mais de poésie. Donc on parlait de vos influences tout à l'heure, Mathias Malzieu. Je vous ai demandé d'apporter quelques textes. Qu'est-ce qu'on a ?
Alors on a pris Walt Whitman, Mayakovsky, dont Daria parlait tout à l'heure, et Richard Brautigan.
C'est qui Richard Brautigan ?
Alors Richard Brautigan, c'est un poète romancier de l'époque post-Beat Generation, quoi, juste après Kerouac, tout ça, San Francisco.
C'est le dernier des Beats.
C'est ce qu'on appelle effectivement le dernier des Beats, alors que finalement il était assez déconnecté de tout ça, même un peu rejeté finalement, parce qu'il était un peu plus rêveur et qu'il se prenait vraiment pas au sérieux, lui.
Et alors là, vous avez la version du Castor Astral qui ont tout retraduit il y a 3 ou 4
voilà,
ans.
Voilà, et donc j'ai eu l'honneur de préfacer, donc c'était un grand honneur pour moi, parce que c'est l'anthologie de ses poèmes en version bilingue, donc... Du coup, ma petite préface avait même été lue par sa fille.
Ça, c'est chouette.
Que j'ai même rencontrée ensuite à la Maison de la Poésie quand elle est venue présenter sa biographie dans laquelle elle parle de son père. Donc, c'était un peu magique pour moi quand même, parce que c'est un écrivain qui m'a donné envie d'écrire, qui m'a donné envie de lire. Pour le coup, c'est un peu le Boris Vian, américain.
À tous ceux à qui on le fait lire...
Dit ça
immédiatement amoureux, quoi.
Ouais, ouais.
Ils achètent tous le
bah, en fait, c'est ce genre d'auteur où en fait, on devient... ça crée un club, en fait.
Ouais.
Ça crée un club et on se reconnaît quand on l'aime. Ça devient un copain télépathique, vraiment. C'est pas juste... On aime ses livres, on aime son style, on aime l'histoire, on pense que, on pense si. On désintellectualise parce que lui désintellectualise. Donc, il y a un côté très joyeux. Mais même, ça peut être très noir et très sombre et très mélancolique. Hein. C'est pas juste un truc pour s'amuser. Mais il est amusant tout le temps, même quand c'est triste, et ce qui fait qu'il est si précieux. Quoi.
Allez-y.
Alors voilà, c'est des petits, tout petits poèmes, un petit peu comme on parlait tout à l'heure, les poèmes un petit peu paquets de bonbons miniatures, comme ça. L'haleine du papillon. La lune projette une ombre sur la nuit. L'ombre est aussi silencieuse que la naissance d'une rose. Et l'ombre est aussi douce que l'haleine du papillon. Voilà un.
Un autre ?
Mère adrénaline. Mère adrénaline, avec ta robe de comète, tes chaussures d'ailes vives et ton ombre de poisson volant, merci de te pencher sur ma vie, de la comprendre et de l'aimer. Sans toi, je suis mort. C'est presque une devise hein, pour moi ce poème. On va finir par un poème un petit peu érotique, vu qu'il est un tout petit peu plus tard, qui a environ 2 minutes. On ne me l'avait jamais fait aussi gentiment. Pour M. Les nectars sucrés de ta bouche sont comme des châteaux baignés de miel. On ne me l'avait jamais fait aussi gentiment. Tu as entouré mon pénis d'un cercle de châteaux et tu les fais tourbillonner comme la lumière du soleil sur les ailes des oiseaux.
Richard Brautigan. Et alors dans cette version, il y a la version anglaise aussi sur la page de gauche. Moi j'en ai un quand même aussi, je l'aime beaucoup, j'en ai toujours un dans la poche. Toutes les filles devraient avoir un poème. Ça résonne bien avec votre recueil. Toutes les filles devraient avoir un poème écrit pour elles, même si nous devons pour cela retourner cette bon Dieu de planète sans dessus-dessous.
Ouais, tout à fait.
Daria, à vous. Qu'est-ce que vous nous avez apporté?
Moi, je suis grand fan de Mayakovsky. Et ça tombe bien parce que Mathias est grand fan aussi.
Et donc vous nous lisez en russe?
Moi, je vais lire en russe.
Ok.
On va lire en petit bout de
Nuage
en pantalon. Ночью хочется звон свой спрятать мягкое, женское. И вот громадный горблюсь в окне, плавлю льбом стекло очищенное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю, лицом в его лицо рябое, жду, обрызганный громом городского прибоя.
Vous êtes bien sûr européen, on se fait de la poésie en russe. Et dites donc, c'est dingue quand même le pouvoir de la poésie. J'ai rien compris, mais j'ai tout compris.
Transporté quoi.
C'est fou.
J'adore. Et il y a un mystère en fait à pas comprendre. On peut s'imaginer plein de choses, mais le son du russe dans sa voix, parce qu'elle a quand même une très jolie voix. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est poétique en soi en fait.
Et version française, Mathias Malzieu.
La nuit, on voudrait enfouir son propre tintement dans du tendre, du féminin. Et me voilà, énorme. Je marque bout à la fenêtre. Sous mon front, je fais fondre la vitre. L'amour, oui ou non, viendra-t-il? Et quel amour? Grand ou minuscule? D'où vient un grand amour dans un tel corps? Ce devrait être une amourette tranquille au klaxon des autos qui la secouent. Elle préfère le grelot des petites trams. Encore et toujours, plantant mon visage dans celui grêlé de la pluie, j'attends, éclaboussé par le fracas du flot urbain.
Magnifique. On en fait un petit dernier rapidement parce que Boris Paczynski, là, derrière la vitre, est en train de péter un câble parce qu'on explose le chronomètre.
D'accord.
Mais il faut prendre un peu son temps pour la poésie. Walt Whitman, qui est un peu le héros du cercle des poètes disparus, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai retrouvé Walt Whitman aussi dans un film de Jim Jarmusch qui s'appelle Down by Law, où le personnage interprété par Roberto Benigni dit qu'il a lu Walt Whitman... en italien, ce qui fait beaucoup rire Tom Waits et John Lurie.
Alors, faut dire que c'est le poète américain le plus connu là-bas. C'est un classique de classique, c'est comme Rimbaud pour nous. Quoi.
Et c'est marrant parce que justement dans la préface du Nuage en pantalon de Mayakovsky, ils disent que la déflagration de Mayakovsky en Russie, de à quel point il a été novateur, il a réinventé la façon d'être à la poésie, c'est l'équivalent de Walt Whitman. Mmh. Et je trouve que voilà, moi ce livre, en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais à l'hôpital. Ou dans des moments, en fait, c'est comme un coach d'enthousiasme, presque. Alors, j'ai pris un petit texte qui fait du bien quand on écrit soi-même un livre. Ne faiblis pas, mon livre, accomplis ton destin. Toi qui n'es pas réminiscence de la terre seule, toi qui navigues telle la barque solitaire sillonnant le ciel, barque de but inconnu et cependant foi totale, va de conserve avec tous les vaisseaux, va, vogue. Porte-leur le pli de mon amour, cher marin. Je vous le plie dans le pli de chaque feuille. Accélère, mon livre. Déploie tes voiles blanches, ma petite barque, à travers les vagues impérieuses. musique, fait voile, apporte au-delà de l'infini du bleu à toutes les mers. Ce chant que je destine aux marins et leurs vaisseaux.
Merci beaucoup donc pour ces poèmes, on s'est fait plaisir là. Je précise que le recueil d'ailleurs est disponible en version livre audio, lu par vous, c'est oui. Chez Lizzie. Et d'ailleurs dans la version audio, il y a même une chanson inédite, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, en livre et en format audio. Donc dans un instant, direction la bibliothèque de Philippe Labro. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Mathias Malzieu et Daria Nelson et leur poésie dans le recueil Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse à l'iconopop. Il est l'heure de quitter un peu ce studio. Philippe Labro vient de publier chez Gallimard J'irai nager dans plus de rivières. J'ai profité de l'occasion pour lui rendre visite. Allons-y. Bonjour Philippe Labro.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau. Mais alors, quel bureau ? C'est magnifique, il y a des livres partout et il y a un bureau gigantesque. Et alors, ça, vous allez m'expliquer, il y a surtout des crayons
partout.
Mais je peux pas faire mieux à la radio, mais enfin, il faut imaginer des rivières de crayons, des bosquets de crayons. Qu'est-ce que vous avez avec les crayons ?
Eh bien, d'abord, j'aime le bois. C'est toujours une matière qui m'a plu. Deuxièmement, tous les crayons me rappellent mon enfance, mes années d'écolier, de lycéen. Ça me rappelle aussi mes voyages, parce qu'il y a beaucoup de crayons qu'on fauche dans les chambres d'hôtel, etc. Et puis, la vertu d'un crayon, c'est qu'il y a une gomme au bout. Et la gomme vous permet d'effacer vos conneries.
Vous dites crayon de bois ou crayon à papier, vous ?
Les deux.
Venons-en au livre, oui. Mais par les photos. Alors, il y a beaucoup de photos dans ce bureau qui sont très belles.
Ben, il y a un de mes maîtres, un de mes mentors, qui était Ernest Hemingway.
On voit lire un livre, là, ou réfléchir à quelque chose, en train de prendre
oui.
des notes.
Il est dans la chambre du Ritz, où il aimait séjourner. C'est une photo prise par qui a été un très grand photographe des années 50-60, qui s'appelait Luc Fournol. Et j'aime beaucoup le geste, il porte la main à sa tête pour réfléchir. Il n'est pas tout à fait en aussi bonne forme qu'il a pu l'être, mais elle me plaît, elle est émouvante.
Et alors là, il y a tous vos livres. Comment ils sont rangés ? Est-ce qu'il y a un rangement d'abord ?
Oui, le rangement est un petit peu confus, hein, franchement. Je les mets les uns après les autres. Il y a des livres de poésie, il y a beaucoup de biographies, des correspondances, des romans, pas mal de livres en anglais, parce que je lis beaucoup les gros documents américains. Et puis, il y a des petites pépites, des découvertes, des choses inconnues.
Mais vous savez où sont les livres ? Si vous en cherchez un, vous savez à peu près où ils se trouvent ?
Je prends un peu de temps, mais je les trouve.
Et c'est quoi ce rapport que vous entretenez avec l'Amérique ?
Ben, ça repose sur ma jeunesse. À l'âge de 18 ans, je suis parti comme étudiant titulaire d'une bourse. J'y suis resté 2 ans dans une université en Virginie. Où j'ai connu la ségrégation, parce qu'à l'époque, c'était la pleine ségrégation. Pendant 2 ans, je n'ai pas parlé un mot de français. J'avais des très bons profs, j'ai eu 2 très bons profs de lettres et de journalisme. Et j'ai appris là-bas beaucoup de choses. J'étais bien reçu par une Amérique accueillante et hospitalière. Et j'ai toujours conservé un intérêt, une curiosité, un amour pour les États-Unis. Même si, par ailleurs, je sais les observer avec un œil critique, et admettre et comprendre leurs défauts, qu'ils en ont autant que nous.
C'était dans les années 70 ?
Alors c'était entre 1954 et 1956, il y a déjà très longtemps, mon cher. Mais ensuite, comme je suis devenu journaliste presque aussitôt après, rentrant à Paris, où mon bilinguisme, j'étais un des rares membres de ma génération qui parlait totalement l'anglais et qui connaissait déjà les choses américaines, j'y suis revenu 100 fois. Pour un grand journal qui s'appelait France Soir, pour la télévision, pour Paris Match, enfin pour toutes sortes de publications, si bien que mon aller-retour avec l'Amérique n'a jamais cessé.
Et vous avez rencontré des grands Américains aussi.
J'ai rencontré et je suis devenu très ami, en particulier avec un immense écrivain qui s'appelle Tom Wolfe.
Ah oui, Tom Wolfe, faut expliquer quand même.
Ben, Tom Wolfe, c'est un romancier qui n'est plus là malheureusement, qui se considérait un peu comme le Balzac et le Zola de sa génération. D'ailleurs, il se réclamait des écrivains français plutôt que des écrivains américains. Et il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Bûcher des vanités, qui raconte la vie à New York, l'argent, les femmes, le sexe. Il a écrit un autre livre extraordinaire qui s'appelle Un homme, un vrai, qui se passe dans le sud des États-Unis. Il a écrit, une demi-douzaine de grands romans. Et il a surtout été, avec Gay Talese, un autre écrivain américain, l'auteur du Nouveau Journalisme.
Voilà, c'est ça. Ça, ce qui est fascinant. Et pourquoi on n'a pas ça en France, nous ? Ces journalistes qui écrivent aussi bien que des écrivains, c'est-à-dire qui écrivent, mais avec style et avec subjectivité, d'ailleurs.
Ben, on l'a quand même en France. Ne déprécions pas la France.
Emmanuel Carrère.
Oui, Emmanuel Carrère, en particulier, oui. Votre serviteur, j'essaie de l'être, à ma manière. Mais il y a eu, comme toujours, il y a eu des pionniers, des mentors. Joseph Kessel, était à la fois un très grand journaliste et un très grand écrivain.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un genre à part en France, quoi. C'est des écrivains qui, parfois, utilisent ce style-là.
Oui.
Ou alors qu'ils sont dans la case plutôt journaliste, etc. Journaliste avec du style. Là-bas, c'est un genre à part, carrément.
Écoutez, moi, je considère, en fait, que le journalisme de haut niveau et la littérature ne font qu'un. Je ne fais pas de différence entre un très grand reportage et une nouvelle, ce qu'on appelle une short story. Le journalisme, c'est jamais que ça, ce sont des short stories, des histoires courtes. Parfois même, elles sont très longues.
Et alors là, je vois un livre sur Bob Dylan. Dylan que vous avez rencontré, il me semble, non ?
Non, pas du tout. Je n'ai jamais rencontré. Je l'ai vu en concert, mais je n'ai jamais rencontré personnellement. Mais je le rencontre artistiquement. Il m'habite. Vous savez, moi, j'ai des chansons dans la tête. J'adore la chanson. Je considère que c'est un art majeur. Et j'ai du Dylan en permanence chez moi.
C'est laquelle, votre préférée de Dylan ?
Écoutez, c'est une chanson qui n'a pas de parole, qui s'appelle Wigwam, qui est le nom, donc, c'est, le Wigwam, c'est la tente des Indiens. Et où il, pendant 4 minutes, au son d'une trompette, d'une guitare et d'un banjo, il ne fait que chanter la 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 la.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Vous la connaissez ?
Bah moi j'adore Bob Dylan aussi.
Ouais.
Mais c'est vrai que je suis particulièrement sensible à son style, à sa poésie.
Non, mais il a écrit des chefs-d'œuvre, c'est un poète.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce prix Nobel incroyable de littérature ?
J'étais ravi. J'ai considéré que par rapport à d'autres choix des Nobel précédents ou qui ont ensuite suivi, c'était pas du tout un mauvais choix. Mais les Nobel, il leur arrive de faire des très mauvais choix. Il leur arrive surtout de se tromper et d'oublier. Vous pensez qu'ils ont oublié Philip Roth, qu'ils ont oublié Milan Kundera et Murakami. C'est pas mal, hein ? Donc, pour une fois, avec Dylan, ils ne se sont pas trompés.
Vous tenez depuis tout à l'heure un livre dans votre main qui est un livre, justement, de poésie américaine.
De Pierre Léris, du Monde entier chez Gallimard. Une édition bilingue, il y a le texte anglais et le texte français, qui est une esquisse d'une anthologie de la poésie américaine du 19e siècle. Et il y a dedans, parmi mes poètes favoris, Walt Whitman.
Qu'on vient de lire avec Mathias Malzieux, d'ailleurs.
Ah oui ! Eh bien, Walt Whitman a écrit, entre autres choses, un miraculeux poète qui s'appelle Miracle et qui dit que tout est miracle. Je vous lis les trois dernières lignes. Pour moi, la mer est un continuel miracle. Les poissons qui nagent, les rochers, le mouvement des vagues, les navires avec les hommes qu'ils portent, y a-t-il plus étrange miracle ? Et il a raison, la vie est un miracle.
Il faut se le rappeler tous les jours. Vous en lisez un peu comme ça de temps en temps ou...
Oui.
Vous avez des périodes.
Oui, j'ai sur ma table de nuit, en permanence, le roman inachevé d'Aragon, bien sûr, et les alcools d'Apollinaire. Apollinaire et Aragon, entre autres, avec Baudelaire, bien sûr, et quelques autres, sont mes livres de chevet.
Alors, on quitte un peu la littérature américaine. Justement, vous faites la transition avec les Français. Vous avez là une somme de François Mauriac, le bloc-notes.
Oui, bouquin, qui est une très belle collection, dirigée par Barré, qui est un très très bon directeur de collection, a réédité les fameux bloc-notes de François Mauriac. Ben là, vous parlez de journalisme. Mauriac, c'est l'un des plus grands journalistes français, sauf que c'est aussi un immense écrivain. Et quand on relit ces bloc-notes, d'abord on y apprend des tas de choses, et on y fait justement l'apprentissage de ce qu'est le mélange d'une vraie culture littéraire profonde, il n'y avait pas plus cultivé que Mauriac, et le regard sur son époque. Donc je les feuillette de temps en temps. Comme je feuillette aussi, c'est pas là, mais évidemment, les choses vues de Victor Hugo, qui était lui aussi un journaliste, mon cher.
Et Michel Houellebecq, vous avez quand même une bibliothèque très large.
Ben oui, ben vous savez, c'est comme une forêt, hein. Il y a tout dans une forêt.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Houellebecq ?
Mais Houellebecq, d'abord, il écrit de façon, comment dirais-je, prenante. À partir de l'instant où vous commencez à lire un chapitre de Houellebecq, vous ne le quittez pas. Mais deuxièmement, et surtout, il a un regard sur la société, il a une vraie pensée abstraite, mais il arrive à complètement la faire passer à travers du concret, des anecdotes, des histoires, des personnages. Il a un sens incroyable de la provocation, et surtout, c'est un prophète, mon cher. Parce qu'il faut relire le Soumission de Houellebecq pour voir ce qui pourrait peut-être arriver à la société française.
Mais un prophète désespéré, quand même.
Ah ben oui, ça... Il
n'est pas le plus optimiste.
On peut pas dire que le soleil brille beaucoup sur son univers.
Et alors, on va terminer là-dessus, parce que ça, c'est magnifique. Oui. Vous avez un coffret sur votre table basse, un coffret des éditions des Saint-Père, qui propose des facsimilés, des copies parfaites des manuscrits des grands livres. Et là, vous avez celui de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. C'est pour le livre, c'est pour Jules Verne, ou c'est parce que vous avez un amour des manuscrits ?
C'est un cadeau qui m'a été fait. Et c'est, pour vous répondre, c'est les trois à la fois. C'est-à-dire que oui, Jules Verne, comme tout jeune homme, comme tout gamin, comme tout lycéen, je l'ai lu. Et il m'a embarqué dans l'imaginaire, dans le rêve, dans le voyage. L'écriture elle-même, c'est toujours passionnant de voir comment ils écrivent, les gens. Je ne suis pas un graphologue, mais l'écriture, c'est comme du dessin, n'est-ce pas ? La manière dont certaines phrases, certains mots sont dessinés, ça dit quelque chose sur l'auteur en question. Et puis c'est un document, et j'aime beaucoup les documents. Je considère que le livre, et en ce moment Dieu sait que c'est pas n'importe quoi cette affaire du livre, c'est sacré. Et ça c'est comme un objet sacré pour moi.
Et ça va boucler la boucle, mais je vois encore tous ces crayons autour de nous. Oui. Vous écrivez vos livres au crayon de bois ?
Non, j'écris au stylo, à l'encre. J'ai plusieurs stylos, bien entendu. Montblanc, Lamy, Waterman, toutes sortes de choses. Mais il est vrai aussi que j'aime bien prendre le crayon pour de temps en temps rajouter un mot ou en enlever un. Voilà. Et donc ce sont mes outils. Un écrivain, c'est un peu un fétichiste. Tout écrivain a cela. Vous savez, vous voyez tous ces verres remplis de crayons. Ça m'était quand même en partie inspiré par Simenon. Rappelez-vous cette photo de Simenon qui est assis derrière son bureau et il y a une rangée de verres remplis de crayons et de pipes.
Les pinceaux du peintre, quoi.
Voilà, exactement, les pinceaux du peintre.
D'ailleurs, vous n'écrivez pas à l'ordinateur, alors ?
Vous avez raison. Oh non, l'ordinateur, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je m'en sers pour faire un petit peu de journalisme et pour écrire des correspondances. Mais quand je me mets à écrire ce que je crois être de la littérature, c'est toujours à la main. Pourquoi ? Parce que comme vous venez de parler du peintre, le peintre, il a le pinceau au bout du doigt, mais ça part de là-haut, ça part de sa tête, de son imaginaire. Et donc, je considère qu'il y a un lien entre ma conception, mon idée, ma création, et le bout de mes doigts et ce petit objet d'où sortent les mots.
Merci beaucoup, Philippe Labreau.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt.
Retour en studio, je rappelle le titre du nouveau roman de Philippe Labreau, J'irai nager dans plus de rivières chez Gallimard. D'autres livres encore dans un instant à la librairie Parole de Saint-Mandé. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, on parle beaucoup d'eux en ce moment et on les soutient, les libraires justement. Partons tout de suite à Saint-Mandé chez Marie-Ève Charbonnier, librairie Parole. Bonjour Marie-Ève Charbonnier.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir d'abord dans la librairie Parole de Saint-Mandé, puis de rejoindre aussi l'équipe des libraires de La Voix est libre. Alors, on va commencer avec vos deux coups de cœur, mais après, on fera un troisième qui est vraiment celui que vous tendez aux clients sans arrêt en disant celui-là, c'est vraiment le livre de la rentrée. On commence par quoi ?
Alors, premier coup de cœur, dans cette époque un peu plombée, c'est L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, publié aux éditions Gallimard, en lice encore pour le Goncourt. Livre jubilatoire avec plusieurs niveaux de lecture, donc même si on reste au premier niveau qui est juste celui du roman, il se passe quelque chose dans le vol Air France Paris-New York. Donc il se passe un événement donc Conterra, pour garder le mystère du livre, et tous les personnages qui sont dans ce vol vont vivre deux vies parallèles, en fait, l'une en mars 2021 et l'autre en juin 2021. Et on va retrouver tout ce qui leur arrive, tout ce qui pourrait leur arriver, tout ce qui aurait pu leur arriver. C'est extrêmement bien écrit, jubilatoire et réjouissant dans ce contexte un peu plombé.
C'est drôle parce que moi, quand je parle de ce livre, je donne le mystère. Parce que pour moi, il faut connaître le mystère pour rentrer dans ce livre. C'est pas grave, ça. C'est pas un spoiler. Mais bon, je respecte votre manière de vendre le livre. Hein. Chacun fait comme il veut. Donc on fait à la Marie-Ève Charbonnier aujourd'hui. Votre deuxième coup de cœur.
Mon deuxième coup de cœur, c'est un livre qui vient de sortir sur l'étape cette semaine, qui s'appelle Le Tram de Noël. C'est un bijou, un petit conte de Noël. Magnifiquement illustré. Donc, c'est un auteur qui a eu pas mal de succès l'an dernier pour un livre qui s'appelle Borgo Vecchio. On retrouve sa plume absolument incroyable, là aussi empreinte de réalisme magique. On est à Palerme, la veille de Noël. Le tram est vide. Il y a un bébé qui est abandonné. Et on va voir monter à chaque arrêt de ce tram un personnage différent. Et en quelques lignes, quelques paragraphes, on va tout savoir de ce personnage-là.
Superbe idée, magnifique. Alors, il y a le grand, grand coup de cœur du moment. Là, il faut qu'on se déplace un tout petit peu dans la librairie. Et alors, c'est vrai que c'est un livre dont on a beaucoup parlé en cette rentrée. Chez Gallmeister, c'est Betty, une Américaine, qui s'appelle Tiffany McDaniel. Pourquoi vous aimez ce livre ?
Alors, ce livre, je l'ai lu, c'est simple, d'une traite. Sans m'arrêter, en fait, quasiment. Et c'est un de mes livres préférés de cette rentrée littéraire. On pourrait le croire plombant, mais en fait, c'est un livre qui est empreint de résilience. Donc, on va avoir plein de thèmes différents apparaître, notamment celui de la relation père-fille, qui est vraiment très, très forte. Le point de départ de ce livre, c'est cette petite fille, Betty, donc qui est métisse, qui est née d'un père Cherokee et d'une mère blanche, dans les années 60 aux États-Unis. Et on va vivre avec elle dans cette famille un peu branque quand même. Il y a 6 ou 7 frères et sœurs, ils ont tous des histoires incroyables. C'est un milieu assez difficile, beaucoup de pauvreté, des histoires pas faciles. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une relation entre le père de Betty et cette petite fille qui est empreinte de tous les mythes liés aux Indiens, à la Terre d'Amérique. Un rapport à la nature aussi qui est très très important. Et puis un apprentissage, en fait, c'est un livre d'apprentissage qui est absolument magnifique dans une écriture merveilleuse, en fait. Donc on le démarre, on ne le lâche pas et on se sent plus fort et grandi, en fait, à la fin de ce livre.
Il fait bien 500-600 pages à vue d'œil. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des livres comme ça, quand même costauds, mais qu'on avale d'un seul coup ?
Eh bien, le souffle, je pense. Il y a un souffle romanesque qui est absolument incroyable. L'autrice nous embarque dans un univers, son univers à elle, et on ne le lâche pas.
Alors, on récapitule. Betty, de Tiffany McDaniel, c'est chez Gallmeister. On a le Tram de Noël, de Josué Calachura, chez Notabilia, et puis L'Anomalie d'Hervé Le Tellier chez Gallimard. Magnifique livre au pluriel. Merci beaucoup, Marie-Ève Charbonnier.
Merci à vous, Nicolas.
Retour en studio, rayon jeunesse, dans un instant avec Victor Dolande, bien sûr. À tout de suite.
Il était une fois.
La Voix et Livre, suite et fin, Mathias Malzieux et Daria Nelson sont toujours là pour leur recueil de poésie. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Comme chaque semaine, on vous retrouve pour votre conseil littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un carton en librairie, justement, qui débarque en podcast. Il s'agit des histoires de la sorcière Cornebidouille.
Oui, alors il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui connaissent déjà l'affreuse sorcière Cornebidouille. Pour les autres, voici une brève présentation. Elle débarque en fait dans la chambre du petit Pierre qui ne veut pas manger sa soupe. Elle tient absolument à lui faire entendre raison. Mais elle a face à elle un petit garçon très rusé. Je vous laisse découvrir les aventures de Cornebidouille, formidablement illustrées par Magali Bognol et racontées par Pierre Bertrand chez l'École des loisirs. Mais bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous raconter d'autres histoires sur cette affreuse sorcière Cornebidouille.
Mais donc, Cornebidouille, ça n'a pas toujours été une horrible sorcière. Quand elle était petite, c'était une princesse adorable.
Oui, c'est justement ce que raconte Pierre Bertrand dans ce podcast. On y découvre la jeune Cornelia qui vit dans un château avec ses parents. Le roi et la reine lui font des chatouilles, des câlins bidouilles. C'est d'ailleurs ce jargon entre eux qui va donner le nom de Cornebidouille à Cornelia. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est sans compter sur Cracrabidouille, une vieille mégère atroce et aussi la tata de Cornebidouille.
Marie, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.
Elle habitait dans le donjon le plus reculé du château. Personne ne venait la voir, et à vrai dire, elle ne voulait voir personne.
Cracrabidouille a une idée, elle va inviter à déjeuner Cornebidouille, sa petite nièce qu'elle n'a jamais vue mais qu'elle déteste déjà. Et c'est un piège. Elle lui prépare une bonne soupe. Enfin, une soupe un peu étrange.
À table.
Quand Crac-Rabidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. Et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table.
Cornebidouille finit par avaler quelques cuillères de cette étrange mixture. Elle en tombe gravement malade et au bout de 4 jours et 4 nuits de sommeil, elle se réveille, mais quelque chose a changé.
Non, un prout de chameau, mais ça pue dans ce château.
Oh, ma chérie, te voilà enfin réveillée.
Laisse-moi passer, face de cabinet.
Mon trésor, chérie, te voilà enfin guérie.
Dégage de là, face de coquerelard. Hein?
Le roi et la reine se regardèrent, consternés.
Un mauvais réveil, sans doute. Sans doute.
Dans les autres épisodes, on va voir grandir Cornebidouille. Elle prépare des soupes les plus horribles, tente des expériences atroces. Et en étant plus âgée, elle va surtout commencer à terroriser les enfants qui ne veulent pas manger leur soupe.
5 épisodes donc pour ce podcast, et c'est pas tout, il y a même des chansons.
Oui, ce podcast est vraiment génial, il y a du rythme, c'est bien raconté, on retrouve tout le langage fleuri de Cornebidouille. Les enfants vont adorer à partir de 6 ans.
On rappelle le titre de ce podcast, Cornebidouille, ses nouvelles aventures, un podcast édité par le studio Paradiso. Et si vous voulez lire les histoires de Cornebidouille, vous les retrouverez toutes chez l'éditeur, l'école des loisirs, bien sûr. Merci Victor.
Non, je veux pas.
Et vous, Daria Nelson, c'est quoi le premier livre que vous avez lu quand vous étiez petite? C'est pas forcément un livre jeunesse d'ailleurs.
Je ne peux pas dire que le premier livre que j'ai fini, c'était Maître et Marguerite de Michel Bulgakov, que j'ai relu il n'y a pas longtemps, huitième ou neuvième fois. C'était le premier livre qui m'a marqué. J'avais 12 ans et c'était le premier grand livre que j'ai terminé. Et après, je me dis, j'ai rien compris, mais c'est formidable. Et depuis ce moment-là, c'est vraiment mon livre favori de tout le temps. Chaque fois, je redécouvre
différemment. Mmh. Mathias Maldieu,
c'est le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne.
À quel âge ?
Je pense que je devais avoir, pareil, 12 ans à peu près. J'ai eu du mal, mais j'ai tenu grâce au dessin animé, en fait. J'étais vraiment pas du tout lecteur. J'étais très football, tennis, hyper actif à courir dans les bois. Mais le dessin animé me plaisait tellement que mon père m'a dit « Mais tu sais qu'on a tous les Jules Verne là, à la maison et que tu devrais essayer de lire, c'est une bonne occasion. » Et en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai accroché à la lecture par Jules Verne. Ensuite, Voyage au centre de la Terre. Tout ça m'a plu, tout le côté Voyage dans autour de la Lune, tous ces livres-là. Mais ça a commencé vraiment avec ce fameux Phileas Fogg.
Comme quoi, ce n'est pas incompatible du tout.
Bien sûr que non.
Je rappelle le titre de votre recueil de poésie à l'iconopop, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Merci beaucoup, Daria Nelson.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.